Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Étrange roman qui commence tendrement. Souvenirs nostalgiques de vacances familiales. Il y a le ciel, le soleil et la mer, le rire et les jeux. Mais roman aussi qui nous entraîne vers les littératures fantastiques ou spirituelles pour se terminer en thriller avec enquête policière usant des méthodes les plus modernes. Il s'agit de La Petite Robe Bleue, roman édité chez Ramsay, et je suis heureuse de recevoir son auteur. Bonjour Marie-Chantal Guillemin.
Bonjour.
Voilà, oui, vous vous ingéniez à nous égarer déjà avec le titre de votre roman qui pourrait évoquer Régine Desforges, bien sûr, La Bicyclette Bleue, ou même Coco Chanel, La Petite Robe Noire.
Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est un petit clin d'œil à Régine Desforges, avec mon directeur littéraire. J'avais proposé déjà, en fait, La Petite Robe Bleue, puis j'avais proposé plusieurs titres. Et il m'avait dit, mais tiens, La Petite Robe Bleue, ça, c'est un petit... On va faire La Petite Robe Bleue, parce que c'est un petit clin d'œil à Régine Desforges.
Alors, parlant de Petite Robe Bleue, je dois vous dire que votre éditeur a trouvé une très belle photo pour la couverture de votre roman. C'est vraiment une belle photo,
oui,
à tout point de vue.
C'est vrai. Et en plus, c'est le premier jet. Je veux dire, il m'a envoyé ça en me demandant ce que j'en pensais. J'ai dit oui.
Ah oui, elle est superbe. Cette jeune femme vue de dos est superbe. Les couleurs aussi. Et par curiosité, je suis allée voir sur Internet et YouTube déroule une vidéo sur l'endroit où se situe, avec tous les sites où vous situez votre roman. C'est très astucieux, ça.
Oui, c'est une vidéo, c'est un teaser, comme on dit aujourd'hui. C'est une vidéo, mais elle est un peu longue, je trouve, mais bon...
Oui, on ne parle pas beaucoup du roman, mais on situe les lieux, et pour ceux qui, contrairement à moi, ne connaîtraient pas les lieux, ça peut être intéressant. Alors, on trouve dans votre roman déjà une dédicace à mon père, mon héros, qui m'a donné deux fois la vie. Alors, je ne veux pas être indiscrète, mais il y a quelque chose là.
Alors déjà, ce livre, il y a un clin d'œil à mon passé, puisque moi, quand j'étais enfant et adolescente, je passais mes vacances là-bas. Donc je connais l'endroit comme ma poche.
Alors on va dire là-bas, c'est marseillan.
Là-bas, c'est marseillan, Agde, Sète, enfin tout. Les contours de l'OTAN de tout.
Voilà, on précise parce que vous savez que cette émission part en dehors de la région.
Oui, et cet endroit, c'est vrai, quand on l'aime, quoi, quand on le connaît. Et pourquoi il m'a donné deux fois la vie? Tout simplement parce que, bon, j'allais avec mon père et ma mère, bien sûr, mais c'était mon père qui venait surtout avec nous se baigner, tout ça. Et j'ai été très malade à l'âge de 16 mois, oui, 17 mois, j'ai eu la coqueluche. Seulement, bon, je me nourrissais plus. Et quand je suis partie là-bas, le docteur a dit à maman, je sais pas comment vous allez faire pour la ramener parce que j'avais maigri, et mon père m'a fait des bains de sable, des bains de mer, tous les jours et puis je suis revenue, c'est pour ça que je dis,
ressuscité.
Cette Méditerranée, voilà. Oui. Et donc je voulais dans le livre, faire un clin d'œil à ça, c'est pour ça que je dédie le livre à mon père d'ailleurs.
D'accord. On parlera de l'épigraphe ultérieurement. Donc je disais que c'est un roman familial, évocation de vacances paisibles, et c'est très bien écrit. C'est plein de chaleur au sens propre et figuré, il y a de la gaieté, il y a de l'affection. Des vacances qui n'ont rien à voir avec le Club Med et les hôtels de luxe. Ce lieu, c'est un lieu non sophistiqué justement, c'est pour ça qu'on l'aime souvent.
Mais c'est déjà un lieu, le lieu, il n'a pas changé par rapport aux années 1960. Vous savez, quand les premiers estivants, ils appellent ça là-bas, sont arrivés. Moi, mes parents, je me souviens qu'ils me disaient on mange avec les pêcheurs, les cabanes des pêcheurs. Voilà. Non, il n'a pas trop changé, mais justement, il est en train un peu de changer, là. Ce qui me fait un peu mal au cœur, d'ailleurs.
Ce que vous dites en parlant des pêcheurs, c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant, justement, dans ces lieux, c'est qu'il y a à la fois les vacances et le labeur. Les autochtones travaillent, et il y a les vacanciers et autochtones qui se mêlent. Il y a les marais, il y a le travail des ostréiculteurs. Hein, en particulier des pêcheurs, bien sûr, mais c'est très, très mélangé tout cela.
Mais vous savez, à partir du mois de juin, là-bas, il y a deux mondes. Il y a le monde, le petit monde de là-bas, quoi. Je dis toujours là-bas, parce que... Et les travailleurs, oui, les gens, il ne faut pas oublier que des gens vivent là-bas comme des gens vivent partout.
Bien sûr.
Et voilà, et c'est vrai qu'il y a une marée humaine qui arrive, c'est sorti. Ça a commencé pas à partir des congés payés, ça, hein. ça vient de très loin. Hein.
Oui, alors bon, il y a donc une histoire familiale, c'est-à-dire que chaque année, Léa et sa famille, alors on va parler de Léa, rejoignent cet endroit et on retrouve une famille agrandie et les cousins. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose à préserver. Et malheureusement, maintenant, avec les voyages lointains, bon, peut-être qu'on va revenir sur les voyages lointains. Apparemment, on dit que ça mange beaucoup trop d'énergie, ça pollue beaucoup trop. Justement, ces rencontres familiales avec tous les cousins, cette chaleur, cette affection, c'est important pour vous ?
Ah oui, pour moi c'est très important, mais on l'a beaucoup moins aujourd'hui, vous avez raison. Hein, c'était toujours dans ces années-là, quoi, je veux dire dans les années 70, 80, le monde était, il n'y avait pas Internet à l'époque, dans les années 70. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens se retrouvaient. J'ai peur que ça se perde un peu, mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète et un peu partout, je pense qu'il y a une réflexion. Et peut-être qu'on va y revenir à ces choses-là, aux choses vraies.
Oui,
et ce serait une bonne chose.
On en parle en tout cas. Justement, alors, cette ambiance de vacances, je disais, est très bien rendue. Il fait chaud, mais la maison est fraîche et la sieste bienvenue. Oh, il y a la plage, les bains, le sel sur la peau, les grillades le soir, les conversations le soir qui s'éternisent. Voilà. Et ça, tout au cours de l'ouvrage, on le ressent. Et puis, moi, j'aimerais bien que vous me lisiez un passage pour commencer.
Alors, lequel ?
Voilà, alors, donc...
Cet été-là.
Voilà, et ça s'arrêtera à l'astérisque suivante.
Je ne le vois pas, l'astérisque.
Derrière.
Ok. Cet été-là s'annonçait à la hauteur des espérances. Une chaleur tenace écrasait déjà le département, craquant les voies goudronnées, asséchant de nombreux étangs, laissant juste entrevoir les rainures de la vase sèche sur lesquelles il ne fallait surtout pas mettre les pieds. Les adultes ne pensaient qu'à dormir après le repas de midi, alors que les enfants, eux, ne désiraient qu'une seule chose, partir pour la plage avec tout l'arsenal nécessaire. D'ailleurs, on ne rentrait pas les objets de plage chez les cousins. Pelles, seaux, bouées, bateaux gonflables, parasols restaient appuyés sur le mur de la terrasse. Le carrelage était brûlant et obligeait les enfants à mettre leurs tongs s'ils ne voulaient pas se brûler la plante des pieds. « On ne va pas à la plage encore ?» répéta Tino. « Vous n'avez pas fait la digestion. »« Il m'énerve, ton père. »« Quoi, la digestion ? Il y en a plein qui vont se baigner après manger. Ils ne meurent pas tous quand même. » »« Papa a sans doute raison, » répondit Maggie. « Maggie, c'est dangereux. On peut s'électrocuter. De toute façon, les grands ont toujours raison. » « Vivement que je sois plus grande pour faire ce que je veux. » Les grands voulaient dormir, qu'à cela ne tienne. Léa et Maggie n'allaient pas attendre sagement l'heure où Mathias les amènerait enfin à Marseille en plage pour s'adonner aux joies des vagues. Elles couraient les chemins tortueux, menant dans les coins reculés des lagunes environnantes. Les zones humides du littoral s'étiraient à perte de vue, apportant une biodiversité dans les zones présalées, où la végétation variait, donnait tant à voir aux enfants des maisons du lieu-dit. Les rainettes méridionales faisaient légion et amusaient vraiment les enfants qui s'évertuaient en vain à les attraper. Les gambusies pullulaient cette année. Elles aussi avaient senti la chaleur écrasante. Graziella l'avait annoncé, les années où il y avait beaucoup de gambusies, les moustiques étaient moins nombreux. Le nombre de larves de moustiques qu'un seul de ces petits poissons pouvait avaler dans une journée, une quantité gargantuesque.
Voilà, la nature est omniprésente et ça, j'ai souri parce que dans ma génération à moi, nous ne sommes pas de la même génération, l'histoire des 3 heures de digestion. Ça a existé pendant longtemps. Voilà, alors on parle des enfants, mais le personnage principal de votre ouvrage, c'est Léa. Qui est Léa ?
Alors Léa, c'est une petite fille qui habite donc à Carcassonne et qui donc va chaque année passer les vacances, comme on disait, avec les cousins. Et cette petite Léa, elle n'a rien demandé, elle va là-bas, c'est une petite fille contente, joviale.
Elle a du caractère quand même. Hein?
C'est ce qui va faire, ce qui va faire l'histoire en fait, du livre, parce que c'est la pugnacité de cette petite fille qui va un peu... Oui, elle a un caractère vraiment bien trempé.
Alors, je sais que, je vais vous dire, ce qui me fait toujours sourire, c'est que les auteurs, en général, n'aiment pas qu'on critique les personnages, leurs personnages, parce que je me dis, mais quand même, il y a des fois, elle est capricieuse, elle est autoritaire, elle réplique. Bon, il y a des fois, elle aurait mérité, non pas une fessée, ça se fait plus, hein, du tout. Mais elle s'insurge, bon, elle est haute comme trois pommes, elle a 10 ans, non, au départ.
Mais oui, mais justement, je pense que les petites filles, ou les petits garçons, mais les petites filles surtout, elles sont aussi beaucoup comme ça. Seulement, on peut pas. Moi, j'avais pas envie de parler d'un personnage tout lisse, qui est une petite fille modèle. Non, les petites filles sont, je pense, même des fois plus.
Oui, mais même capricieuses à certains moments. Et puis. Elle ne se rend pas compte, elle n'est pas très sensible, et on le comprend, elle est trop jeune, aux difficultés des parents.
Exactement, elle est dans son monde d'enfant. Elle est dans son monde d'enfant. Je pense que les enfants ne voient pas les problèmes des adultes de la même façon que les adultes.
Oui, vous avez raison.
Ne serait-ce qu'un deuil, n'importe quoi, un enfant, il ne le vit pas pareil. Et cette petite fille...
Et puis on les protège un peu aussi, peut-être.
Peut-être, mais aussi il faut voir que son papa, son père, c'est pas lui, hein, le chef de famille.
On en parlera du père, oui.
C'est la maman. Oui. Donc peut-être qu'elle n'a pas eu cette autorité et qu'elle retrouve dans son oncle, dans Tino, le personnage avec qui elle va pouvoir continuer à faire son enquête. Mais voilà, c'est ça. Oui, peut-être qu'elle n'a pas été assez vissée, comme on dit. Et peut-être que, voilà, elle a un peu ce caractère...
Oui, moi je l'ai... Alors là, elle est beaucoup plus grande, évidemment. Mais quand elle dit à son père, « Quoi ? Tu m'as privé de ses vacances il y a plus de 6 ans et tout à coup, monsieur décide que sa période d'entêtement est terminée. Non, mais pour qui tu te prends ?» Je me dis, moi, j'aurais dit ça à mon père.
Ah oui, mais c'est une adolescente.
Oui, même adolescente.
Oui,
hein.
mais voilà, le père n'a pas réagi. Ouais. Alors qu'il aurait dû... Voilà, parce que pourquoi ? Parce qu'il en est conscient, peut-être, de lui avoir fait de la peine aussi. Mais elle, son père a été au chômage.
Il n'a pas fait exprès. Hein.
Il a connu beaucoup, beaucoup de choses difficiles. Oui. Elle aurait pu quand même essayer. Mais je pense qu'elle en a tellement souffert du manque de ses vacances que peut-être voilà.
Alors, je pense aussi...
Les adolescents ne sont pas toujours gentils, vous savez.
Oui, c'est vrai aussi. Oui, oui. C'est moi d'abord. Hein.
Voilà.
Oui. Je pense aussi qu'il tente de s'affirmer, de se poser aussi en tant qu'adulte. Il y a peut-être ça aussi, non, de la part des adolescents.
Oui, elle essaye un peu de... Disons que peut-être que les autres ont trop pris des décisions pour elle. Mmh. Et que là, maintenant, elle s'impose. Elle dit, ah non, moi maintenant, je n'y vais pas. Vous vous débrouillez, je ne viens pas. Voilà, oui, c'est une façon de contrer l'autorité.
Oui, et c'est vrai ce que vous dites aussi par rapport... Le père paraît être l'élément un peu faible, très gentil sans doute, mais assez faible, assez humble.
Oui. Oui, c'est un père qui adore ses enfants, oui. Mais il n'a pas le permis de conduire.
Oui.
Ce n'est pas lui qui conduit, c'est celle qui a... Qui,
c'est
qui
le cas de le dire, hein, dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme. Et oui, ça arrive des fois, et c'est peut-être pour ça qu'elle cherche l'autorité. Moi, je pense qu'elle cherche un père. Elle a un ami avec son père, mais elle n'a pas un père.
Et on parlera de ce qu'elle trouvera comme autre père, évidemment. Alors, les vacances à Marseillan, évidemment, c'est cette tradition si importante, avec ses retrouvailles. Et il y a un étrange événement qui transforme Lola. Léa.
C'est Lolita, enfin Lola. C'est Lolita et Lola, en fait, puisque elle se fait appeler Lolita, mais en fait, elle s'appelle Lola. C'est un personnage, c'est là que ce personnage l'emporte une petite robe, une robe bleue.
Ouais.
Et ce personnage lui apparaît à la petite enfance. Et on verra plus tard pourquoi. Parce qu'à l'adolescence, elle aurait eu peur. Alors qu'une petite fille de 9-10 ans, elle prend tous les amis qui viennent, même si à la limite, ils sont pas tout à fait... s'ils sont virtuels.
Oui, 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 mais de même que... Écoutez, moi, j'ai vu le Père Noël. J'étais certaine d'avoir vu le Père Noël. Bon,
non, mais je pense que... Mais d'ailleurs, elle l'amène au psychiatre à un moment donné, et le psychiatre lui dit, vous savez, c'est tout à fait courant, les petites filles ou les petits garçons ont souvent des amis imaginaires.
Mmh, c'est vrai.
Donc, au départ, il croit ça. Et on verra avec le livre que ce n'est pas un ami imaginaire, c'est vraiment une âme en fait,
oui.
Une âme de ce voilà.
Alors justement, elle est subjuguée par cette petite fille ou jeune fille. Elle est vraiment sous le charme.
Oui, elle est sous le charme parce que elle a l'air, elle est pas comme les autres. Donc déjà, elle lui raconte des choses qu'elle n'a pas entendues, qu'elle n'a jamais entendues. Et puis elle la voit toujours, elle la voit partir d'un côté, elle la voit revenir de l'autre. Elle voit bien que cette jeune fille ne marche pas comme les autres. Oui. Elle apparaît, elle disparaît. Et oui, tous les enfants sont subjugués par...
En plus, elle est très belle.
Oui, elle est très très belle, oui.
Alors, évidemment, on comprend. J'essaie d'imaginer une de mes filles me parlant de cette... petite fille qui arrive, qu'elle voit, à qui elle parle, évidemment, il y a de l'inquiétude qui s'instaure.
Ah,
les
oui.
parents sont plus prosaïques.
Ah oui, d'ailleurs, bon, l'inquiétude au départ s'efface puisque le psychiatre leur dit que c'est normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la jeune fille, elle n'en parle pas.
Elle ne parle pas de sa raison, de la présence.
Voilà, là, elle garde le secret. Mais petite fille, c'est vrai qu'elle le dit, et les parents s'inquiètent, mais c'est tout à fait normal, oui. Moi, je m'inquiéterais aussi.
Oui, et... En fait, il n'y a que quelqu'un qui la comprend dans cette maison, qui la comprend vraiment, parce qu'elle s'isole. Cette année-là, elle s'isole, même de sa cousine avec qui elle jouait, et il y a un homme qui la comprend bien.
Il y a deux hommes qui la comprennent bien.
Mais le premier.
Pépé.
Oui. Eh oui.
Ah, Pépé. Alors ça, ce Pépé, d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'il parle à tout le monde, parce que... On a tous eu quelqu'un, une personne un peu âgée comme ça, qui nous comprend, avec qui. Parce que les personnes âgées, je veux pas qu'elles disent qu'elles reviennent dans l'enfance, mais elles sont plus aptes. Elles ont plus rien à prouver. Elles sont plus aptes à rentrer dans des confidences comme ça.
Oui,
et
vrai.
Cette petite fille va trouver chez Pépé une épaule, un confident. Et voilà, en plus, c'est quelqu'un qu'on laisse un peu de côté, qu'on change de place de temps en temps.
Mais qui est toujours présent.
Qui est toujours présent, voilà.
Et il partage beaucoup de choses, on verra à un moment donné, mais on en reparlera, parce qu'il partage entre autres des lectures.
Ah oui, Pépé, il lit beaucoup, oui. Il lit des livres d'espionnage.
Oui. Et quand je parle... Non, on pourrait dire... Par exemple, Léa s'enfermait des heures avec Pépé et lisait. Graziella, la tante,
oui.
Ne comprenait pas comment l'on pouvait rester autant de temps plongé dans un livre. On aurait pu croire que la chambre fut vide. Pas un bruit, pas une respiration ne hantait les lieux. Malgré cela, derrière cette porte marron clair, une adolescente et un vieux monsieur dévoraient les mots, des lignes, des paragraphes entiers, sans se lasser d'aucune sorte. Voilà, à la gloire de la lecture, bravo.
Ah ben vous savez, jusqu'à je peux placer...
Vous êtes bien placée.
Oui. Ça les unissait, cet amour de la lecture déjà.
Il y avait une complicité, c'est ça.
Il y avait une complicité, voilà. Et c'est ce qui a permis qu'elle s'est laissée aller à des confidences après pour lui dire. Et puis il l'a prise au sérieux.
Il l'a prise au sérieux.
Ouais. Et ça, c'est le seul au départ.
Et oui. Alors, bon, il va y avoir ce que l'on peut appeler un drame, parce que c'est un drame social, le chômage du père. Dont il a honte, finalement,
Bon...
Et les vacances à Marseillan, tant attendues, sont annulées. Voilà. Alors, réaction de cette jeune fille, de cet enfant, ou ado, je ne sais pas, elle a 10 ans, non ?
Elle a 10 ans au départ, oui, puis après, bon, il va se passer 5-6 ans, où c'est qu'ils ne vont plus, ils ne vont plus partir,
oui.
Puisque son père est au chômage, elle va rester à Carcassonne, et là, elle va faire la vie comme une petite fille de 12, 13 ans, 14 ans.
Elle va oublier.
Enfin, elle va avoir des amis, des copains, vous savez, c'est l'âge des premiers émois, des premiers flirts, elle va vivre.
Oui. Et Mathias avait tant de choses à se faire pardonner, Tant d'amertume s'était accumulée entre eux depuis 16 ans. Il avait une dette envers sa fille. Il désirait retrouver cette complicité d'autrefois, cette harmonie tant chérie. Et on se dit, mon Dieu, mais il se bat la coulpe alors que finalement, ce n'est pas lui qui a choisi d'être au chômage.
Oui, hein? Mais je pense que les gens qui sont au chômage ont cette... je voulais faire ressortir
presque
que...
cette honte.
Voilà, et je voulais faire vraiment... Je voudrais que les gens le prennent à l'envers, en fait, ça. Oui. En se disant, non, je suis au chômage, mais ce n'est pas une honte. Mmh. C'est quelque chose qu'on m'a imposé.
Bien sûr, et oui.
C'est pas comme celui qui veut pas travailler. Mmh. C'est autre chose, mais être au chômage, c'est dramatique.
Oui, ah oui, tout à fait.
Ça peut être très dramatique, il y en a qui se suicident.
Hein. Oui, mais oui, absolument.
Je veux dire, voilà.
Alors, donc, 7 ans sans Marseillan, une rancœur et puis une oubli. Et au bout de 7 ans, le père Mathias a retrouvé un travail, donc on repart à Marseillan. Qu'est-ce qui se passe là?
Et là, vous avez vu que c'était le père qui avait pris la décision. Mmh. Lui qui est effacé, c'est lui qui a pris la décision d'appeler les cousins, d'essayer de trouver du travail, donc, parce qu'elle est devenue une jeune fille. Donc, elle, au début, elle a peur un peu de s'embêter, de s'ennuyer. Puis bon, il a vite compris qu'il fallait qu'il lui trouve une occupation, parce qu'elle n'allait pas tous les jours aller faire des râteaux à des petits pâtés sur la
plage. Et puis, il ne veut pas la laisser à 17 ans seule à Carcassonne.
Voilà, ça aussi.
Ce qu'on comprend.
Ça aussi. Donc, voilà, ils vont repartir donc, là-bas. Et cette Lolita, cette jeune fille si belle avec cette robe bleue, va revenir. Et cette fois, elle est bien décidée à lui dire pourquoi elle est là.
Alors, la réaction de Léa, là, est tout autre. À savoir qu'elle n'est plus fascinée, mais dans un premier temps, elle a peur.
Oui, parce que elle a davantage, bon, en grandissant, on craint. Il y a la crainte
d'être folle.
D'être folle. Voilà. Elle se dit, mais finalement, peut-être que petite, j'étais déjà folle en fait. Et là, oui, elle a peur. Et c'est pour ça que je pense que la peur s'en va quand elle sait pourquoi elle est là. D'accord. Elle lui explique pourquoi. Là de suite, il y a quelque chose à faire. Il y a on change de dimension là, voilà.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que c'est un thriller qui part pas un thriller.
C'est pas d'abord un thriller, je dirais moi. On n'y est pas encore.
Et voilà, c'est un thriller qui démarre forcément un thriller. Quoi.
Oui, 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 oui. Voilà. Alors.
Parce qu'après on tombe dedans vraiment quoi. Hein.
Alors, à un moment donné, on se pose la question. Elle se pose la question. Elle veut pas. Elle dit, c'est pas un fantôme, c'est un esprit. Vous dites là une âme. Et c'est vrai que on peut se poser des questions. Peu importe. Effectivement, suivant les bouddhistes, c'est voilà ce qui est. Suivant les chrétiens ne voient pas trop l'esprit comme ça. Souvent, ce sont des esprits malfaisants dans le monde des chrétiens.
Exactement, dans le catholicisme notamment.
Oui.
Mais là, les âmes, pour moi, les âmes, elles peuvent être mauvaises, mais elles peuvent être aussi bonnes, parce que, vous savez, moi, ça m'est venu...
Le fait de les voir, s'entend.
Ah, le fait de les voir, d'accord. Oui. Parce que moi, j'ai perdu mes parents, par exemple, et je les ai sentis près de moi, et je les sens encore aujourd'hui. Oui. Je suis persuadée aujourd'hui, on me l'aurait dit quand j'avais 15 ou 16 ans, j'aurais dit, Mais là, aujourd'hui, je suis pratiquement persuadée, c'est difficile d'être sûre, quand même, mais je suis pratiquement persuadée que les âmes sont parmi nous.
Oui. Alors, je vous propose, Marie-Chantal Guimain, juste une pause musicale. Évidemment, on va parler de Méditerranée, si ça vous ennuie pas.
Oh non, pas du tout.
Qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux yeux d'or ensoleillés, mine. Entendez-vous le guerre froid des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit.
D'auteur Monique Fauché.
Voilà, je crois que nos auditeurs auront reconnu mes versions tout à fait modernisées. Cette chanson, je pense qu'elle a été chantée par Tino Rossi.
Oh oui.
Oui, hein, voilà. Bon, voilà, il y a quelques années hein, de oui. cela. Voilà, nous retrouvons Marie-Chantal Guillemin, justement, qui nous fait prendre un bain salutaire en Méditerranée. Elle a si bien décrit la région de la côte occitane qu'on aime tous beaucoup, cette côte écrasée par le soleil l'été, il faut bien le dire,
oui.
parfois avec quelques moustiques aussi, moins qu'autrefois. Parfois avec beaucoup de vent. Vous n'en avez pas parlé du vent?
Non, parce que je pense que le vent est plutôt... Je vais me fâcher avec beaucoup de monde.
Sur les temps à côté.
Il est plus sur Narbonne-les-Gruissants, le vent.
Voilà.
Mais, oui, c'est moins venteux que du côté d'Arbonne.
Voilà. Alors, nous sommes donc avec Léa, cette jeune fille qui a rencontré quelqu'un qui est un esprit, une jeune fille aussi, qui vient à sa rencontre régulièrement, qui apparaît. Bon, on peut penser à la Dame du Lac chez le roi Arthur, dans Lancelot, je ne sais pas
oui,
si vous l'avez vu.
Peu, oui.
Et on se pose des questions, évidemment, puisque qu'est-ce qu'elle veut? Et elle est mise à courant par l'esprit, justement, de Lolita.
Oui, Lolita lui dit, enfin, parce que elle voit aussi que Léa va devenir dingue, quoi, à force, parce que c'est pas normal d'apparaître comme ça, de voir quelqu'un. Et là, elle lui dit que, donc, elle a été... C'est une âme, elle a été assassinée, en fait, 50 ans plus tôt, en 1970, sur les bords de l'étang de Thau. Et là Léa prend peur aussi, parce qu'elle se dit, mais dans quoi je me suis mise, quoi, enfin. Et là, elle va commencer quand même à l'entendre, vraiment, à se dire, non, c'est pas quelqu'un qui vient me voir comme ça, elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à défendre. Et Léa, qui est quand même... On l'a dit au début, un caractère bien trempé.
Un caractère fort.
Elle va se dire, je vais l'aider. Voilà, mais elle va vite réaliser que seule, elle ne peut pas l'aider.
Alors, de temps en temps, on trouve des chapitres qui nous ramènent dans les années 70, quand Lolita, jeune fille, quittait la Haute-Savoie pour venir en vacances dans une grande et belle maison. Alors, et là, elle retrouve des copains, et c'est important pour la suite de l'histoire. D'ailleurs, elle a un amoureux. Alors, ça commence ainsi une cinquantaine d'années plus tôt. Les voilà tous embarqués dans une querelle interminable sur les femmes. L'un prétendait qu'elles étaient faites pour les travaux ménagers, l'autre pour les plaisirs érotiques. N'oublions pas que nous sommes dans les 50 ans plus tôt. Un autre prétendait qu'ils avaient tous deux raison, qu'une femme pouvait bien faire les deux. L'un trouva belle une femme qui passait avec un petit garçon, l'autre la trouva belle, et si là aussi, tous deux avaient raison. Chacun voyait la vie et les éléments la composant si différemment. L'opinion tenait une place à mi-chemin entre l'ignorance et le savoir. Elle n'était encore ni fondée ni démontrée. En suivant cette querelle bien masculine, il pourrait bien faire le tour de la terre qui ne se mettrait pas d'accord. Un orage faisant acte d'arbitre les mit d'accord, il fallait vite s'abriter. Les garçons retournèrent une barque échouée sur le bord du canal des Allemands, la calèrent contre un petit ponton. Les jeunes gens se serrèrent les uns contre les autres pour échapper aux grosses gouttes éparses qui commençaient à frapper avec force la coque de la petite embarcation. Lolita serra très fort Laure et Rémi. Les filles tremblaient de peur. Les garçons, jouant les gladiateurs glorieux dans une arène, se prenaient au jeu du mâle protecteur. « N'ayez pas peur les filles, on est là, on va braver les dieux de la pluie. » Voilà. Alors, oui, je souris parce que je me dis, est-ce que les choses... Apparemment, les choses ont changé, ces relations, ces propos. Évidemment, les femmes ont pris beaucoup plus de place, beaucoup plus d'assurance.
Oui, puis là, avec toutes ces affaires qui sortent en ce moment, je veux dire, les femmes retrouvent un peu... J'irais pas dire de dignité, mais presque, quoi. Parce que c'est vrai que c'était dans les années 70, la femme, c'était la femme au foyer, quoi, je veux dire.
Oui, on considérait, moins que l'époque d'avant encore.
Mais je pense que la femme s'y plaisait aussi. Je pense que la femme de cette époque-là n'avait pas vu peut-être, ou pensait que ce n'était pas possible de...
C'est-à-dire, c'était la période, je crois, charnière, parce qu'elle commençait tout à travailler. Hein, en
oui,
70,
voilà,
on trouvait du travail.
C'était la période charnière, exactement.
Oui, mais il n'y avait pas encore cette libération qu'on a vue ultérieurement.
Exactement,
hein, je crois. Alors, Léa, qu'est-ce qu'elle fait de cette demande de Lolita? Est-ce qu'on peut dire la demande? On ne donnera pas les résultats, évidemment.
Hein, oui,
il faut un thriller, on ne donne jamais...
Oh là là, non. Surtout que la fin est un peu incroyable.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de la demande de Lolita?
Oui, on peut en parler. Je veux dire, c'est une jeune fille qui a été donc assassinée. Et tout le livre, en fait, elle va rechercher des gens pour l'épauler, parce que son devoir maintenant, son travail à elle, ça va être de convaincre les gendarmes. En sachant...
Ah, vous parlez de Léa.
Léa.
Lolita.
Ah, vous parlez...
Oui, je parle de Lolita. Lolita lui dit, voilà, j'ai été assassinée.
Voilà. Et elle lui dit, elle lui demande d'aller voir les gendarmes et de rouvrir l'enquête. Vous imaginez une gamine de 16 ans...
50 ans après.
On lui dit, va. Ouais, c'est... Bon, elle est un peu perturbée, c'est sûr.
Alors... Et c'est là où vous avez raison, quand vous dites elle est courageuse. Effectivement, elle a du tempérament, elle est opiniâtre et elle est convaincante.
Elle est convaincante, oui. Mais ça, je pense qu'à la base, c'est son tempérament. Donc, et comme elle a compris que seule, elle ne pourrait pas convaincre, elle va s'appuyer sur le mari de Graziella, Tino, qui lui... a plus d'épaule que son père, quoi. C'est quelqu'un qui, pour elle, c'est vraiment le père. D'ailleurs, elle envie sa cousine Maggie d'avoir ce papa-là, malgré l'amour qu'elle porte au sien. Parce que ça n'a rien à voir pour elle, Tino, s'il s'appelle Tino, c'est vraiment l'homme de la situation. Donc, elle va le mettre au courant. Et petit à petit, ils vont mettre les autres au courant, mais tout doucement. Ils auront toujours peur de...
Qu'il y ait des propos et que l'on se moque, pour fous.
Pareil.
Mais il y a quand même... Alors, d'abord, les gens, ceux qui sont mis au courant, sont incrédules. Et puis, convaincus par certains faits.
Ben, c'est la vérité. C'est la vérité qui va venir. C'est-à-dire qu'elle va leur donner des éléments que personne ne peut savoir. Oui. Et quand le gendarme Arnaud Maury... lui aussi, au départ, il faut dire, il la prend pour une folle. Hein. Et quand lui, il va voir qu'elle lui parle d'objets qui sont dans des pièces qui sont enfermés, que personne ne peut savoir, là, il va quand même se douter qu'il y a quelque chose de vrai. Oui. Et il va commencer à y croire.
Elle est sympathique, il est sympathique, ce personnage d'Arnaud Maury, ce gendarme qui finalement trouvait que bon, rien ne se passait. Il y avait enfin quelque chose d'intéressant.
Voilà, et puis en plus, il y a ce personnage, Rochester, je crois, qui avait déjà fait l'enquête à l'époque.
Oui.
Et ils n'avaient rien trouvé, bon, ils n'avaient rien trouvé.
Qui est mort.
Avec cette peine, quoi.
Oui, parce que cette jeune fille tuée, étranglée, laissée sur le bord du chemin, ça...
Ça avait laissé dans la région, bon. Et voilà, et il va se battre pour en sachant bien même s'ils arrivaient à trouver l'auteur des faits, ils ne seraient pas jugés. C'est ça.
Il y a prescription.
C'est ça dans le livre qui est important aussi. C'est cette quête de la vérité.
De la vérité.
Parce que cet Arnaud Maury, c'est la vérité qui les font bouger. Parce qu'ils savent très bien, parce que c'était 10 ans, je crois qu'ils l'ont mis à 20 ans maintenant, la prescription. Mais là, 50 ans, de toute façon. Mmh. Et ils continuent quand même, ils auraient pu abandonner. Il aurait pu dire non, maintenant il ne sera pas jugé ou il ne sera pas jugé, donc aucun intérêt. Eh bien non, il se prend au jeu. Peut-être, comme vous dites, parce qu'il s'ennuie un peu.
Oui, tous les deux se disent il y a quelque chose. Alors justement, il y a une petite équipe qui se forme. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'oncle qu'elle considère comme un père. J'ai pensé que ça aussi, c'est un point intéressant de voir l'importance, une autre vision de la famille, l'importance des oncles, des tantes. On parle parfois des rôles qui s'inversent ou des liens affectifs très forts. C'est important quand, pour un oui, pour un non, on n'a pas une bonne relation ou à un moment donné, avec le père ou la mère, qu'on puisse avoir autour de soi des oncles et des tantes qui vous aident à franchir ce moment, par exemple.
Exactement. Ou des grands-parents.
Ou des grands-parents, bien sûr.
Les grands-parents, ça arrive des fois que dans la vie ou d'un adolescent, même d'une personne un peu plus âgée, le grand-parent a un grand comment dire, apporte beaucoup.
Tout à fait. Oui.
Peut-être parce que l'expérience, peut-être aussi des particularités communes aux deux personnes.
Aussi, oui.
Des goûts communs. Oui. Voilà.
Alors, ils vont entamer une enquête, y compris, et là c'est amusant parce que ce gendarme va accepter d'être dans l'illégalité même.
Ah oui, heureusement il a des copains à la criminelle, comme je dis. C'est pour ça qu'il va aller dans les scientifiques, dans la police scientifique. Donc oui, il va le faire en dehors de complètement. Les gendarmes qui sont à la gendarmerie, les autres, c'est top secret, personne ne le sait, à part donc un gendarme qui est très proche de lui et qui le met dans la confidence.
Voilà, alors à un moment donné, on voit Léa, qui lit toujours beaucoup, qui est très impressionnée par la lecture d'un ouvrage de Marc Boisson. Hors antenne, on a parlé de cette personne qui existe, qui est en fait un médecin anesthésiste toulousain, et qui a écrit sur la vie après la mort. Alors évidemment, c'est controversé, on ne saura jamais, mais j'aimerais bien, si vous voulez bien, que l'on lise un passage qui concerne son expérience.
Oui, bien.
Alors, c'est à la page 85, voilà.
Alors,
Marc Boisson, donc, dans un livre.
Ses travaux portaient surtout sur l'existence d'une conscience qu'il nommait intuitive extra-neuronale, survivant à l'état de mort clinique. Il expliqua en détail que les expériences de mort imminente, la possibilité pour l'esprit d'exister indépendamment de la matière et d'influer sur elle, représentaient une certaine véracité et alimentaient les thèmes récurrents de ses ouvrages.
Continuez.
Deux scientifiques purs et durs se trouvaient dans la salle et les altercations furent nombreuses, mais constructives. Léa ne savait plus que penser à la sortie. Nonobstant, elle savait que les morts pouvaient se trouver là, juste à côté, derrière les portes, dans les trains, sur les ponts ou sur les plages. Personne ne pourrait aujourd'hui l'en dissuader. Durant la conférence, elle sentit l'envie irrépressible de monter sur la scène pour expliquer qu'elle pouvait témoigner, qu'elle vivait avec un fantôme depuis son enfance, mais Maury avait été intraitable. Ne jamais parler et tenir bon.
Voilà, alors donc, elle réfléchit à tout ça, elle progresse. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de documentation de votre part. Quelle a-t-elle été ?
La documentation sur la police scientifique.
Entre autres.
Comment ils font pour ressortir l'ADN, pour comparer les ADN. Eh bien, en fait, je me suis moi-même passionnée par ce sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, avec tous les experts, tous ces feuilletons qu'on voit à la télévision, les gens se passionnent un peu pour ça, pour les enquêtes scientifiques. Mais je pense que les gens ne savent peut-être pas exactement comment ça se passe vraiment. Et j'avais envie de ne pas passer rapidement là-dessus, de l'expliquer vraiment. Et je pense que certains, il y en a qui m'ont dit, qui ont lu le livre, c'est incroyable tous ces mots compliqués, scientifiques, mais bon, on se régale quand même de voir comment ça...
Bien sûr, l'ADN mitochondrial qui n'est commun qu'avec la mère, eh bien voilà, vous me l'avez appris. Alors, il y a également beaucoup de choses sur les lieux, soit historiques, soit quasiment géologiques. Par exemple, la femme couchée, ça aussi, je regarderai le paysage autrement. Vous la voyez, les enfants, clama Mathias, comme s'il la voyait pour la première fois. Oui, oui, on la voit, la femme couchée, elle est toujours là, mais c'est en haut du col de Fongin que l'on peut l'apercevoir vraiment bien, s'écria Oscar, le frère de Léa, de 4 ans son aîné. À chaque voyage, d'année en année, elle était toujours là, en effet. Le panorama se montrait magnifique du haut du col de Fongin quand le temps était clair. Le plateau Dolomite laissait entrevoir cette silhouette qui faisait effectivement penser à une femme allongée. Cette femme millénaire se situait au-dessus du Jorre et de l'Argue, l'un des plus beaux villages de France. Il est vrai que le mythe avait depuis longtemps supplanté la réalité. Les troubadours en avaient rapporté la légende qui perdurait encore aujourd'hui. Et Mathias apparaissait intarissable sur cette légende. Au grand dam de Marie-Lou, il voulut la répéter cette fois-ci. « Oui, papa, raconte-nous la légende de la femme couchée, c'est que sa mère, d'une même voix, les enfants enthousiasmés. » Mathias ne se fit pas prier. « Les dieux ont tracé les limites de l'Espinouse et du plateau de Caroux par ce cours d'eau torrentielle qui coule dans la gorge d'Éric. Les titans, frères des cyclopes, faisaient la guerre avec les Olympiens. Deux jeunes titans, Éric et Sébéna, lassés par la guerre, sont venus dans le Languedoc. Éric prit un bateau et partit pêcher en mer l'Espadon. Dérivé par les courants marins, il fut secouru par Poséidon, frère de Zeus et dieu de la mer. Poséidon prit Éric en affection et lui indiqua le chemin du retour. Malheureusement, Éric dériva une nouvelle fois et arriva en Grèce. Atlas lia d'amitié avec le jeune Éric qui disparut lors d'une guerre. Pour punir Atlas, Zeus, dieu des dieux, l'obligea à garder le monde sur ses épaules. Mathias continua, baigné par sa passion. Sébéna, gonflée d'amour et de chagrin, attendit Éric tous les soirs au bord de la Méditerranée. Anéantie par l'attente trop longue, elle repartit s'allonger auprès des falaises de l'Espinouse sur le mont Cérosus.
Oui.
Elle se pétrifia et elle pleure encore. Ses larmes coulent encore dans le ruisseau d'Éric qui, de nos jours, sépare le versant atlantique de celui de la Méditerranée. Désormais, la montagne s'appelle Sébéna en hommage à la muse des Cévennes. Écoutez, Marie-Chantal Guimet, merci aussi de nous montrer combien sont fortes les relations de notre région, de ce midi méditerranéen aussi, avec notre histoire, même avec la mythologie et notre histoire grecque, notre histoire latine.
Oui, bon, je vous dirais déjà que je suis journaliste de métier donc, et historienne, donc je suis passionnée par l'histoire et de toutes les époques. Et c'est vrai que là, bon, quand j'ai écrit ce passage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je l'écris entièrement, la légende, et je me suis dit, oui, fais-le, parce que les gens vont se régaler de voir justement la mythologie, voir que la mythologie est partout.
Bien sûr.
On en parle partout. Et cette femme allongée, vous pouvez la voir, c'est après Saint-Chinian. Quand vous allez passer Saint-Chinian, c'est le passage de la mer. Hein. Mm-hmm. Quand vous allez passer Saint-Chinian,
le vin est très bon, soit dit en passant.
C'est vrai aussi. Et vous montez, vous avez une côte comme ça, enlacée, qui monte vers le col de Fongin. Et là, sur la gauche, vous la voyez. C'est une montagne qui est allongée, avec une chevelure qui tombe comme ça. On dit la femme allongée ou la femme couchée.
Oui. Oui, voilà. Alors, c'est important, je pense. Récemment, nous avons reçu des professeurs d'histoire de l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui ont parlé justement, enfin, un d'entre eux était particulièrement tourné vers l'Antiquité et même les Volques et les Tectosages. Et évidemment aussi, bon, tout ce qui relevait de l'Antiquité, parlant des quantités d'amphores qui ont été trouvées entre la mer, la Méditerranée et Toulouse. Il y avait un trafic intense, donc c'était très actif cette région-là, particulièrement.
Oui, puis je pense que la mer montait, hein. La mer montait plus haut dans le continent. Ils ont trouvé notamment des fossiles d'huîtres, enfin de... Je pense que la mer montait plus haut que là où elle est actuellement.
D'accord.
Je parle d'après les jeunes mythologiques.
Oui. Peut-être pas du temps des Romains, enfin j'en sais rien. En tout cas, oui, c'est important de savoir que cette région a aussi un passé très fort qui imprègne les gens sans qu'ils s'en rendent compte.
Ah ben oui, parce que je pense que tous les gens du Toulousain, du Tarn, de l'Aude, tout ça. Tous ces gens-là, quand ils vont à la mer, ils passent par là, quand ils vont en Méditerranée. Et beaucoup de... Nous, on les regarde chaque fois, on fait de la femme allongée.
Voilà.
Ça fait partie du décor.
Exactement. Voilà. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de vous dans ce roman. Léa est peut-être un peu vous.
Ah, pourquoi? Je suis capricieuse.
Non.
Vous savez...
Je pense que vous avez de l'énergie et un pouvoir de conviction.
Je sais pas, mais moi, disons que quand je me bats à fond. Suis quelqu'un qui, plus je prends de l'âge, moins j'écoute les autres dans le sens où quand ils veulent m'empêcher, je le fais quand même. Je veux dire, c'est...
Vous êtes opiniâtre. Oui. Comme Léa.
Oui, mais vous savez, tous les auteurs qui vous disent qu'il n'y a pas un peu d'eux dans leur livre,
bah,
c'est pas possible. Par contre, il y a beaucoup de... Je ne suis pas tous les personnages non plus. Mais il y a peut-être un peu de moi dans Léa, oui, sûrement.
Oui, oui, et puis sans doute beaucoup de votre amour pour cette région.
Oh, sûrement, oui, oui.
Voilà, alors je vais rappeler à nos auditeurs, parce qu'on va pas parler, on peut pas parler, quand il y a un roman policier, alors dites-vous bien que parfois il n'y a que le roman policier, c'est difficile.
Ah oui, là on peut pas dire après.
On peut pas dire tous les épisodes, parce que là dans ce roman, il y a trois suspects, et petit à petit, justement, c'est le propre de l'enquête d'éliminer les suspects les uns après les autres. Je dois vous dire qu'au départ, je me suis dit, c'est mal parti. Parce que vraiment, 50 ans après, il y avait de quoi être perdu à jamais. Hein.
Oui.
Voilà. Bon, ben voilà. En tout cas, il y a une énigme résolue à la gloire de la gendarmerie et puis quand même de Léa aussi.
De Léa, oui. Et des autres qui l'ont aidé et accompagné, Pipé et Tino.
Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de La Petite Robe Bleue éditée chez Ramsay. Et c'est Marie-Chantal Guillemin qui en est l'auteur. Un grand merci.
Merci à vous.